sur le légalisme qu'on peut avoir quand on détient aussi une sorte de vérité. Et puis, nous allons parler du royaume des cieux. Vivre aujourd'hui le royaume des cieux. Et pour poser d'abord la base, je vous invite à lire Romains chapitre 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Un peu plus loin, verset 5, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et verset 9, puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec lui grâce à la mort de son fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Et je reviens sur le verset 5. Notre espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà un texte fort. Oui, je suis à Christ, je suis réconcilié. Oui, il m'aime. Il a déversé son amour en moi et le Saint-Esprit est en moi. Et ce n'est pas lié à mon effort. Galates 5, verset 14. En effet, toute la loi est accompli dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la base, le fond de tout. Dieu m'aime, il habite en moi et j'aime mon prochain. Et c'est absolument incroyable d'imaginer que toute la loi se concentre sur une phrase. Quand je suis dans l'amour de Dieu et pour mon prochain, eh bien, il y a quelque chose qui devient naturellement le travail de l'esprit. Où du coup nous faisons des choses pour notre prochain, eh bien, sans trop peut-être réfléchir, sans trop le faire parce qu'il faut le faire. Alors que quand je suis en opposition avec mon prochain, quand je suis en querelle avec lui, eh bien, on doit mettre en place des règles de vie. Eh ouais, j'ai un problème de voisinage, eh bien, il va falloir poser des règles. Il va falloir poser des lois, il va falloir se protéger l'un de l'autre. Et du coup, là, on va en écrire des règles. Et il y a de très nombreux commandements dans la Bible qui sont là pour permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble, de nous protéger. Le piège de la loi, c'est qu'on aime la loi plus que notre prochain. Et on rentre dans un légalisme. Alors que c'est l'amour qui nous permet de comprendre le fondement de la loi. De telle sorte qu'on entend le cri du cœur du prophète Ézéchiel qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le légalisme, c'est suivre la loi sans avoir compris l'amour. Et notre vie commence un petit peu comme ça. Quand on est enfant, quand on est petit, on nous dit « touche pas ça, fais pas ci, fais ça, etc. » Et on obéit. Et c'est très bien comme ça. On obéit sans savoir pourquoi on obéit. Mais par respect. Et ce qui se passe dans la croissance d'un enfant, c'est qu'au tout début, eh bien, en fait, on obéit parce qu'on sent que sinon, on est puni. Et sinon, si on obéit, eh bien, on est récompensé. Et le mécanisme en fait, intellectuel de l'enfant ou émotionnel, il est là-dessus. Je suis puni, je suis récompensé, et donc je vais suivre la loi. Mais j'ai rien compris, en fait. Alors si je mets le doigt sur le feu et que ça brûle, là, j'ai compris. Ça rentre ici. Mais sinon, on est dans une démarche qui est d'obéir sans savoir pourquoi. On fait confiance. On peut rentrer dans un légalisme, par exemple, pour le sabbat. Il faut pratiquer le sabbat. Et Jésus dit, à un moment donné, le sabbat est pour l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. Ils mangent des épis, ils mangent du maïs, les disciples, avec Jésus, ils sont en train de marcher, et puis les pharisiens là, leur disent, mais pourquoi est-ce qu'ils mangent le jour du sabbat? Et puis Jésus dit, mais le sabbat, c'est pour l'homme. Le sabbat, c'est bon. Ça fait du bien de se reposer. Ça fait du bien de se ressourcer en Dieu. C'est une bonne chose. On en a besoin du sabbat. Mais il ne faut pas le voir d'une manière légaliste où il faut absolument pratiquer le sabbat parce que c'est la tradition. Oh, si tu n'as pas pratiqué le sabbat, tu vas être puni. Non. Je suis là pour comprendre le fondement du sabbat. Il me fait du bien. Et pas une vision légaliste. Et du coup, c'est la même chose pour l'obéissance au commandement. Dans un premier temps, j'obéis à un texte biblique, et puis petit à petit, par le Saint-Esprit, je le comprends. Je commence à l'assimiler. Et ça ne se fait pas sans l'amour. Sans l'amour, impossible de comprendre un commandement. Et on devient légaliste. Et du coup, on va se taper. Ça va mal se finir. On va être en conflit. Parce que moi, j'ai l'amour de la vérité sans l'amour du prochain. Et parfois, dans notre croissance spirituelle, on en arrive un petit peu à ces questionnements de dire « Mais c'est fou, j'ai compris plein de choses, ou j'ai telles idées, ou j'ai envie que l'Église elle avance, ou j'ai envie que ça avance. » Et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et oui, il faut être renouvelé par l'amour pour débloquer la situation. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, on balance entre les deux. On apprend à faire les choses par amour et on apprend à suivre les lois, les commandements, parce qu'on a besoin de les suivre, parce qu'on n'aime pas autant que Dieu voudrait qu'on aime. Et c'est normal. C'est normal. Donc, on a besoin de suivre les commandements, de suivre les lois et de leur donner au fur et à mesure de la saveur. Et quand tu vois que ça plafonne, n'oublie pas, c'est l'amour qu'il faut fructifier, qui va te donner, eh bien, par l'esprit, cette croissance. Ainsi, on passe d'une obéissance à des convictions. On passe d'une contrainte à un intérêt commun, un intérêt pour soi, un intérêt pour nous, un intérêt pour tous. Et ça, ça plaît à Dieu. Un intérêt pour soi, pour nous et pour tous. Il y a une joie profonde quand nous cultivons l'intérêt pour l'autre, l'intérêt pour tous. Et Dieu nous fait cheminer et nous demande d'observer le monde dans lequel on vit, de prendre du recul. Plus je me nourris de Dieu, plus j'ai soif, comme lui, de justice. Plus j'ai soif, comme lui, d'annoncer la bonne nouvelle. Plus j'ai soif, comme lui, d'aider à ce que mon prochain, mon chef, mon voisin, mon boulanger, mon beau-frère, ma belle-sœur, trouve cette paix intérieure que j'ai. Et nous devenons disciples. Et nous développons cet esprit de disciple parce que oui, nous avons soif de cette justice. Nous avons soif de paix intérieure pour nous et pour les autres. Et pour continuer à vivre ça et à développer ça, nous devons cultiver le royaume des cieux, cultiver l'espérance. Le Christ nous dit : vous n'êtes pas du monde. Il nous invite à aspirer dans l'espérance à vivre le royaume, ce royaume qui est en croissance. Tel que nous le dit la parabole du grain de sénévé. Le royaume est une graine, une plante qui grandit, le royaume du ciel. Tout comme le dit la parabole du semeur. Cette graine, si tu es une bonne terre et que tu reçois la graine, eh bien, elle va fructifier. Tout comme le dit le sage sur le roc. Quand tu ne vas pas oublier la parole et que tu vas la comprendre, eh bien, du coup, ça va se développer. Tout comme la parabole des talents, où le maître nous confie ses dons. Il part, il revient. Qu'as-tu fait de mes dons ? Et pour lui, ses dons sont en croissance. C'est lui qui nous les a transmis. Bien sûr, on ne parle pas de croissance économique. On parle de la croissance du royaume des cieux pour lequel nous pouvons participer. Et nous apprenons à cultiver ce royaume aujourd'hui des cieux dans l'espérance. Et à faire le point sur nos attentes, nos aspirations intérieures. Est-ce que nous sommes attachés au bien sur terre ? Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on désire ? Qu'est-ce que je désire quand je me lève le matin et que je me couche le soir ? Qu'est-ce que j'ai cultivé ? Pour qui j'ai travaillé ? Pourquoi j'ai travaillé ? Qu'est-ce qui a animé mon élan ? à trop chercher à être rassasié sur terre, à vouloir alimenter nos sens. On aime manger, on aime voir de belles choses. Et pour voir de belles choses, eh bien, il faut aussi des fois changer de lieu. Et puis on aime voyager. On aime aller au cinéma, aller au restaurant. Et à trop vouloir être rassasié, nous affaiblissons ce plaisir de vivre dans l'espérance, qui est source de bienfaits. Moi, ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », je le sens loin. Est-ce que je fais de l'Éternel mes délices ? Voyez, il est loin, il est inaccessible, inatteignable. Et je sais pourquoi, c'est que j'ai plein de délices autour de moi qui sont à portée de main et qui entretiennent mes journées et qui sont des délices aussi très concrets, très, très matériels, très terrestres. Et je vois bien ce combat intérieur entre ce à quoi j'aspire, qui me fait du bien sur terre, et ce que je dois cultiver, le royaume des cieux, déjà aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les plaisirs sur terre, qu'il faut fuir les vacances. Moi, j'aime, hein, tout comme vous, prendre des vacances, partir au restaurant, aller au cinéma, regarder un bon film, poser. Et je crois qu'en fait, ce que j'apprends à vivre, c'est que ces choses-là, c'est pas une aspiration, voyez, c'est pas je vis pour ça. C'est à un moment donné, eh bien ouais, ça y est, je vais pouvoir me poser, je vais pouvoir apprécier ça, sans forcément cultiver. Eh bien, le fait que je vis dans ce but-là. Et je crois que c'est difficile à analyser, en fait. Hein. À quel degré nous en sommes, en fait. C'est difficile d'analyser ça. Quelle est la part, en fait, de ces loisirs, etc., dans ma vie ? Est-ce que j'aspire à ça ou est-ce que c'est juste une chose que je peux apprécier ? Quand j'apprécie les choses simples, quand je vis le royaume des cieux, quand je vis dans l'espérance, je suis nourri de l'intérieur et j'ai moins besoin de ces choses. Et ces choses, quand elles arrivent, elles me font du bien à leur juste place. Je peux apprécier des choses beaucoup plus simples. J'ai moins besoin de choses énormes pour pouvoir en voir plein la vue parce que je suis rassasié de l'intérieur. Dieu nous appelle à faire croître son royaume. C'est notre mission. Elle est différente de notre travail. J'ai un travail, je suis payé pour ça. Si je quitte ce travail, eh bien mon employeur y trouvera quelqu'un d'autre. Ma mission, ce n'est pas mon travail. Et en même temps, au sein de mon travail, il peut y avoir ma mission, celle du royaume, apporter plus de justice, apporter du réconfort, apporter cette paix intérieure, apporter cette bonne nouvelle. Donc ma mission est différente de mon travail, mais elle peut être partout, à tout moment. Et parfois, on fait cette confusion. On a bien travaillé et on a oublié la mission. Participer à la croissance du royaume. Partager l'espérance. Vous n'avez pas ce sentiment parfois que vous courez après le train ? Vous n'avez pas parfois ce sentiment que vous avez beaucoup travaillé et que les fruits de votre travail sont ridicules ? Et que vous êtes tout ça pour ça. Vous n'avez pas l'impression que parfois, vous avez un manque de confiance en vous et que du coup, vous ne savez pas si c'est ça qu'il faut faire, si ce n'est pas ça qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. On court après le train, on ne voit pas les fruits de son travail, pourtant on a l'impression qu'on bosse beaucoup puis que ça ne porte pas ses fruits. On perd de confiance. Vous n'avez pas le sentiment que parfois vous ne faites que la moitié du boulot? Vous dites, tiens, on m'a confié un truc et puis j'ai fait que la moitié. Et ben, c'est un peu pareil par rapport à la mission que Dieu nous confie. Est-ce que la mission que Dieu me confie, est-ce que j'ai l'impression que je cours à côté? Est-ce que j'ai l'impression que je fais que la moitié? Parce que vu que ce n'est pas mon boulot et puis que c'est un petit plus, bon, bah, je ne suis pas obligé de tout donner pour cette mission. Mais où est-ce que je dois tout donner? Quelle est ma mission que Dieu m'a confiée? Cette mission où le Christ dit « Chacun doit porter sa croix ». Quelle est cette mission où tu te dis « Mais ça, c'est ce que je dois faire pour le Seigneur ». C'est ce que je dois contribuer. Et je sais que, ouais, il faut que je porte ce fardeau parce que c'est celui qu'il m'a confié. Et ce fardeau, ce travail, cette mission, ce n'est pas le travail pour lequel tu es rémunéré. Ce n'est pas le travail pour lequel tu es aussi en charge de ta famille. Oui, il faut le faire, mais on fait tous ça. On prend soin de notre famille, soin de nos proches, mais tout le monde fait ça. Quand Dieu dit, ça y est, tu m'appartiens, et maintenant, eh bien, tu es mon disciple, il y a une autre part à faire. Quelle est-elle? Fais grandir cette part, questionne-toi sur cette part. Et ça demande, du coup, un travail intérieur. On peut faire des formations, on peut développer nos compétences, on peut développer nos savoir-faire. Ce travail ne peut se faire que par un travail intérieur. Et du coup, je reviens au début. C'est l'amour qui donne tout le sens à ce que je vais faire. Et on peut faire un petit peu le bilan, moi je le fais souvent. Est-ce que les gens m'agacent? Est-ce que les gens m'énervent? Est-ce que je suis agacé parce que je veux apporter quelque chose et puis j'y arrive pas, puis ils comprennent rien les autres, hein? Mais qu'est-ce qu'ils sont têtus comme une mule, ils comprennent rien? Oh là là, c'est pas possible! Et est-ce que j'ai de l'amour pour eux? Est-ce que j'ai la joie de les rencontrer? Comment je suis, en fait, par rapport aux autres? Moi, j'aime bien me poser ces questions. Pour avoir un indicateur intérieur, c'est vrai, mais Jean-Marc, t'es pas dans l'amour, t'es dans l'égalisme. Apprends à aimer. Ah, mon Dieu, s'il te plaît, je veux aimer. Et du coup, je lâche prise. Je dis, Seigneur, guide-moi par ton esprit. Fraye le chemin. J'aime, je vais essayer, je vais demander pardon. Je vais pardonner et puis après on va pouvoir avancer. Je vais apprendre à être avec l'autre et du coup on va pouvoir partir sur de bonnes bases. Et c'est reparti. Corinthiens 13, verset 13. Excusez-moi. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Et le 13, Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour. Donc on a abordé l'amour, on a abordé l'espérance, celle qui fait qu'aujourd'hui, je vis déjà le royaume, je participe déjà au royaume, je me sens bien au fond de moi, et tout le reste, c'est par-dessus. Ce n'est pas un objectif, c'est des choses qui viennent par-dessus. Et puis, il y a la foi. Et on va aller voir dans Jacques, chapitre 4. Verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce texte, je le trouve trop fort, parce que je n'ai pas l'impression, lorsque je demande, que je veux satisfaire mes passions. Je fais des demandes que je trouve légitimes. Et en même temps, il me questionne pour que je puisse me dire, mais qu'est-ce que je veux au fond de moi? Qu'est-ce que j'attends au fond de moi de la vie? Quel est mon objectif? Des fois, je me dis, le matin, je me réveille, puis je vois la maison, je vois les enfants, et je me dis, mais j'ai tout. Et des fois, je me sens insatiable. J'ai tout et je me dis, qu'est-ce qui me manque? Et je me dis, c'est bizarre quand même. Tu as tout et il y a quelque chose au fond de toi qui ne va pas. Et je me dis, mais peut-être que j'attends trop de choses sur Terre, trop de choses de passionnant, trop de choses qui... Et ouais, je me dis, mais Seigneur, ce que j'ai, c'est bon. Et par la foi, du coup, je vais demander des choses qui sont vraiment utiles pour la justice, qui sont vraiment utiles pour mon prochain, qui sont vraiment utiles pour apporter une paix profonde chez les personnes que je côtoie. De sorte que ce que nous demandons par la foi n'est pas relié que pour nous, mais relié avec les besoins autour de nous, la justice de Dieu. Avant de lire ce texte dans Hébreux chapitre 11, je voudrais juste témoigner que ça fait 10 ans que j'ai dit à Dieu, tout ce que j'ai entrepris par moi-même ne marche qu'à moitié et je ne comprends pas, maintenant s'il te plaît, tu portes et je suis à ton service. J'ai tout lâché. Je lui ai dit, vas-y, porte, je te suis. J'ai tout lâché au niveau professionnel et je lui ai dit, vas-y, porte, je te suis. Et je voulais vraiment voir, comprendre, vivre ce que je lisais dans les textes bibliques de l'ordre de la foi. Je lui ai dit, c'est pas par mes forces, Seigneur, c'est toi qui vas porter. Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'être un éléphant qui accouche d'une souris et que je suis frustré. Et du coup, c'était pour les autres. Et je suis émerveillé de ce que Dieu fait pour les autres. Je n'arrive pas à m'y faire. Et il est incroyable. Voir Dieu agir, finalement, on se sent tout petit. Et puis, c'est lui qui agit. Et on se dit, mais il est merveilleux. Et c'est lui qui agit. Et du coup, on témoigne du fait que c'est lui qui agit. Et c'est pas possible. Mais je trouve que la croissance du royaume, c'est indécent. C'est indécent. Parce qu'en fait, à nous de nous faire tout petits, et lui, tac, 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 il fait ce qu'il a à faire, et il y a du boulot, hein. J'y passe du temps, il y a du boulot, mais je ne suis pas le seul, il y a toute une équipe qui y passe du temps. Il y a du boulot, mais en fait, c'est lui qui prépare le terrain, puis nous, on travaille la terre, vous voyez, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, du coup, on voit un fruit d'un travail où on n'a fait qu'une part et que c'est lui qui a fait le boulot. Et parfois, vous savez, on regarde comment Dieu agit dans notre vie après coup. Et par la foi, en fait, ça devient l'inverse. On sait que Dieu va agir et on avance. Parce qu'il va, Dieu, il va agir. Et on ne le fait pas pour nous. On ne le fait pas que pour nous. Parce qu'il faut aussi faire les choses pour nous, on est d'accord. Hein. Mais on ne fait pas que pour nous. On fait pour nous avec la communauté et pour tous. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. On continue verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alors, excusez-moi, je vais quand même un peu en arrière quand même. Donc, on parle de, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte a construit une arche. C'est par la foi qu'Abraham a obéi. C'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Vous voyez, ils sont toujours vécu dans l'espérance. Mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La foi, l'espérance et l'amour. N'attendons pas trop des biens sur terre, qu'elles reprennent leur juste place pour apprécier les petites choses qui arrivent. Et apprécier les grandes sans qu'on soit focalisé là-dessus. Contribuons à apporter la justice, à apporter la bonne nouvelle et à venir soutenir ceux qui ont besoin d'une paix intérieure et qui sont en souffrance. Au nom du Christ, Amen. Que deux personnes peuvent prier pour clôturer ce moment.